Regard sur la philosophie, aux sources de la pensée en Occident. Catherine Mann et Simon Martin sur Radio Grand Ciel. Pour commencer cette émission qui inaugure notre nouveau cycle autour de la naissance de la philosophie en Occident, j'aimerais d'abord non pas citer un des pionniers de la pensée philosophique tel Thalès ou Anaximandre quelques 6 siècles avant notre ère, mais un de nos contemporains, Clément Rosset, car tel un perpétuum mobile, les questions philosophiques se répètent de siècle en siècle depuis le début de l'histoire de la pensée. Écoutons Clément Rosset. Le principal défaut de la philosophie consiste généralement non pas à répondre de manière confuse et évasive aux questions dont elle s'occupe, mais à y répondre trop tard ou trop lentement. La précipitation, grand ennemi de la philosophie, est peut-être tout bien considérée une condition sans doute fâcheuse, mais aussi absolument nécessaire de son efficacité et de son sérieux. Car il y a urgence à savoir si l'existence est ou non désirable. Question dont la résolution marque en somme la fin de l'investigation philosophique. Urgence puisque la vie est courte et en raison de sa propre constitution ne peut attendre. La maladie et la mort me mettront bientôt hors d'état d'apprécier la découverte d'une raison de vivre, si excellente ou décisive soit-elle. Fin de citation. Et pourtant, chers auditeurs, c'est bien à la patience que nous vous invitons. Patience infinie, puisqu'à en croire Clément Rosset, 2500 ans après les premiers penseurs, nous n'avons peut-être pas encore fait le tour de la question. Donc, point de précipitation et trêve d'anachronisme, propulsons-nous à l'aube de la pensée, quelque part dans le bassin méditerranéen, en compagnie de Catherine Mann. Catherine, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Je dis que nous allons nous téléporter sur le pourtour de la Méditerranée, mais cela ne signifie en rien que l'histoire de la pensée commence ici sur la Terre.
Ah ben pendant ce temps-là, il se passe plein de choses à l'autre bout du monde. Hein, voilà. Si on pense à l'Inde ou à la Chine, exactement, pendant ce temps-là, ils pensent aussi, ces braves gens. Mais c'est une manière de penser assez différente. Donc il faut peut-être effectivement être modeste et peut-être chercher les sources de la pensée occidentale qui est la nôtre, quoi.
On se souvient, en souriant, du passage des Actes des Apôtres où Paul se rend à l'Acropole et essaye de convertir les philosophes grecs. Et les philosophes grecs curieux au départ de cette nouvelle idée qui
toutes les
qui
idées sont bonnes à prendre, mais justement celle-là les fait rire jusqu'à vraiment vexer saint Paul qui part, je dirais presque en claquant la porte, mais en tout cas pas content. Il s'est fait vraiment moquer. Hein. Et pourtant, c'est quand même lui qui a gagné, si je peux dire, sur le long terme. L'Occident est quand même devenu chrétien. Et aussi philosophe. Donc c'est intéressant de voir comment des choses qui s'étaient repoussées violemment à un certain moment peuvent ensuite devenir collaboratrices, en tout cas. Puis même la philosophie a fait partie de la théologie à un moment donné avec saint Thomas d'Aquin. Donc on peut vraiment se poser la question comment de l'huile et l'eau peuvent-elles à un moment donné devenir solidaires.
Et pour l'époque, nous allons nous propulser aussi dans le temps, alors quoi, 600 ans avant Jésus-Christ, on va même essayer de voir ce qu'il y avait avant, parce qu'il y a quelque chose avant, évidemment, les premiers
Bien sûr, la philosophie n'est pas tombée d'un coup comme ça, des nuages.
Est-ce que dans la Bible, par exemple, la sagesse de Salomon, c'est déjà de la philosophie?
Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, philosophie, amour de la sagesse? La sagesse... Il était, à son époque, la référence d'amour de la sagesse. Mais c'est intéressant déjà de voir que dans les écrits de Salomon, ou ceux qui lui sont attribués, enfin, on voit que sa connaissance n'était pas seulement métaphysique, elle était aussi biologique, il s'intéressait à la nature, aux animaux. Il avait des réponses à tout, on venait le voir de tout l'entourage méditerranéen pour lui poser des questions.
Donc on est bien en amont de ce que Lucien Gerfagnon appelle les premiers philosophes tels que Thalès, on remonte encore plus loin, évidemment.
Et pourtant, c'est quand même pas très, très différent. Moi, je vois assez mal l'articulation comme une différence. Je pense que les deux se recouvrent petit à petit comme ça, jusqu'au jour où on leur trouve un autre nom, parce qu'il y a une dominante de rationalité qui apparaît. Quand on parle de philosophie, c'est la dominante d'un discours rationnel et organisé, alors que quand on est encore dans la sagesse biblique, on est plus dans l'inspiration et on n'est pas dans la démonstration presque scientifique qu'on cherche après. Mais je pense que les deux seront toujours présents, même aujourd'hui. Vous parlez de l'aujourd'hui de la philosophie, les questions sont à la fois les mêmes et totalement différentes. Tout le contexte a changé. Mais je pense qu'il y a toujours aujourd'hui une part d'inconnu et de réponses d'ordre spéculatif en face ou dedans ou derrière les réponses rationnelles et du discours scientifique.
Alors pourquoi, Catherine, revenir aux sources de la philosophie ? Un physicien d'aujourd'hui ne tirera qu'un intérêt de l'ordre de la curiosité à lire, par exemple, Lucrèce ou Aristote. Pour son travail, il a plutôt intérêt à lire la dernière revue scientifique.
Oui.
Pourquoi a-t-on besoin de revenir aux sources de la philosophie et ne nous contentons-nous pas du dernier bouquin de philosophie qui devrait être à la pointe de la pensée ?
Ah oui, pourquoi pas ? Mais en ce qui me concerne, c'est plutôt justement l'explosion de la multiplicité des théories. Il y a une espèce de démultiplication qui fait que on perd un peu le sens mais de quoi on parle, quoi. Chacun a son idée, chacun a son opinion. Il y a peut-être une quête d'une origine, voilà, qui est pas sûr qu'elle soit philosophique, mais elle est peut-être religieuse, je ne sais pas. Mais enfin, comment la raison a-t-elle une source dans l'humanité ? Quelles étaient les questions premières que se posaient les philosophes ?
Et que l'on se pose encore aujourd'hui, finalement.
D'une certaine manière, je crois que c'est mon besoin, ce serait une idée de simplifier les questions, de discerner ce qui est essentiel à la vie humaine, parce qu'à force de démultiplier les points de vue, on arrive à une espèce de kaléidoscope dont on ne sait plus très bien où est le début, la fin.
Alors vous dites démultiplier et pas nécessairement progresser, finalement.
Ah, ça, c'est une des grandes questions de la philosophie.
Est-ce que la pensée progresse ? Est-ce que Heidegger est plus intelligent que Platon, par exemple ?
Ça, moi...
Question un peu absurde, peut-être.
Ah ben, il y a deux réponses possibles, oui ou non. Mais je crois que c'est une décision. À mon avis, non, mais ça, c'est encore une fois...
C'est une opinion.
Les mesures sont toujours un petit peu adaptées aux questions et les questions à l'environnement. Alors, Platon était adapté, avait la juste mesure de la réponse aux questions dans lesquelles il se débattait, de son temps, en son lieu. Et Heidegger, autrement, à un autre moment. Mais je ne vois pas où est l'idée de progrès. Alors, dans la complexité mentale, peut-être, mais c'est peut-être cette complexité qui me fatigue, si je peux dire. C'est beau, la complexité. Mais comme chacun sait, quand un appareil est très complexe, il devient très fragile. Et je trouve que c'est un peu la rusticité que je cherche justement dans cette philosophie des premiers siècles. C'est bien d'avoir un mental extrêmement précis, nuancé, avec une sophistication, mais il ne faut pas perdre l'unité de base de la simplicité. Parce que sinon, on peut se s'éparpiller dans une multiplicité de petits problèmes qui se contredisent les uns les autres et qui finissent par s'anéantir dans les solutions. La solution de l'un devient le problème de l'autre, c'est toujours la question.
Penseurs des sources qui sont encore aujourd'hui des références. Les philosophes d'aujourd'hui font encore référence à Platon, font encore référence à Aristote,
oui,
et à tous les autres, Descartes, etc.
Avec le défaut, ou la qualité, encore une fois, qu'on réinterprète chaque fois selon notre contexte d'aujourd'hui. Et on fait dire parfois à ces philosophes antiques des choses qu'eux n'avaient jamais imaginées, bien entendu. Mais on peut critiquer ça, parce qu'effectivement, c'est une forme d'anachronisme. Et en même temps, je trouve ça intéressant qu'on puisse retrouver une combinaison différente de la pensée d'un ancien pour illuminer le présent. Je trouve ça plutôt sympathique. On l'a fait avec Aristote, il a été mis à toutes les sauces au travers de l'histoire. Qu'on reprenne Platon, néoplatonisme, etc. Moi, je trouve ça plutôt bien, mais ça veut dire que la philosophie n'appartient à personne.
On peut se poser la question, en tout cas moi je me la pose, pourquoi des questions, toutes les questions existentielles, finalement seraient réservées aux philosophes, dans le sens où, généralement, ce sont des livres assez confus et compliqués à lire. Moi qui suis un quidam, est-ce que j'ai besoin des philosophes pour répondre à ces questions ?
Moi, je dirais qu'il complique la chose justement pour essayer d'être propriétaire d'un système philosophique qui serait le système définitif auquel... Mais ça, c'est, à mon avis, une enflure de l'ego qui n'est peut-être pas utile. Quand je dis « la philosophie n'est à personne », ça veut en même temps dire « je voudrais que la philosophie soit à tout le monde ». On sait bien que les petits-enfants, vers 3 ans... nous épatent toujours en posant des questions métaphysico-philosophiques. C'est presque ça qui me paraît important, c'est que dans tout cerveau, il y a une couche philosophique qui s'éveille à un moment donné. Et ce qui est dommage, c'est que ça s'éveille chez les tout-petits, mais en même temps, c'est ça que j'essaie de faire en posant des questions sur l'enfance de la philosophie. À la base, dans les premières années de la philosophie, comme dans notre enfance, on ne se pose pas les vraies questions. Et après, on embrouille. Mais qu'est-ce qui fait qu'on embrouille ? C'est parce qu'on veut être propriétaire d'une réponse, avoir le monopole et se faire payer très cher ce monopole. Ce sont des travers humains, à mon avis. Ce qui n'est pas dit, c'est que des réponses actuelles ne soient pas intéressantes. Mais il ne faut pas perdre de vue le noyau simple.
Et est-ce que malgré tout... des pensées élaborées, très élaborées parfois, telles que celles de Platon ou d'autres plus tard, de Descartes, finalement, n'infusent pas à travers les couches de la société et finissent par arriver au quidam, voire à l'ignorant. Je pense à des choses comme « je pense donc je suis », on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais quelque part, on le sait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, c'est la propriété de tous, mais en même temps, ce n'est pas sûr que ça soit vrai. Est-ce que l'être dépend de la pensée ? Il faut aussi être capable de démonter Descartes, parce que dans certains cas, la pensée peut justifier l'être, mais pas forcément. Hein. Enfin, je veux dire, quand... je ne suis pas sûr que Jésus ait dit ça. C'est le problème toujours de la tension entre la foi et la pensée. Mais il n'y a pas forcément opposition. On peut être croyant et avoir une foi d'homme simple, avec peu de mots dans son vocabulaire, et aussi aspirer à une connaissance philosophique au long de sa vie. L'un n'empêche pas l'autre.
Radio Grand Ciel. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, la quête de cette simplicité passe par un labyrinthe. Vous serez Catherine, notre Ariane, mais le fil, lui, sera ce livre de Lucien Gerfagnon, dont j'ai déjà cité quelques extraits, livre paru en 1989 et intitulé « Histoire de la pensée, philosophie et philosophe ». Alors, pour l'homme de l'Antiquité et ses prédécesseurs, et peut-être l'enfant, comme vous venez de le dire, Catherine, l'univers est formé de cosmos et de chaos, de chaos. Le cosmos, c'est le monde connu, rassurant, ce que l'on sait, et puis tout le reste, c'est le chaos. Et on peut s'imaginer que pour un homme de l'Antiquité, et même avant, le chaos était beaucoup plus important que le cosmos, quelque part. Parce que... sur la connaissance du monde, en tout cas même physique.
L'explication rationnelle... Mais même là, moi, je ne suis pas sûr. En fait, l'âge du mythe dont on parle là, c'est... On ne sait rien. On projette encore nos connaissances en interprétant ce que nous avons comme traces. Les traces, c'est quoi ? C'est Lascaux, c'est la préhistoire, c'est... On s'imagine que c'était un exemple tout au long de mes études dans un cours de dessin, soyons clairs. Le professeur vient avec deux images, une reproduction de Dürer, vous savez, les gravures extrêmement précises, et une reproduction, je ne sais plus si c'était un cheval ou un bison, de la grotte de Lascaux. Il pose la question, quelle est la plus belle techniquement, ou je ne sais pas ce qu'il voulait... J'étais tellement assommé par la question, comment peut-on comparer Dürer et un cheval de Lascaux? Et il me pousse à dire, enfin, laquelle est la plus aboutie, la plus parfaite? Et pour moi, c'était évident que c'était Lascaux. Alors j'ai hésité à le dire, et quand je l'ai dit, il a hurlé en disant, mais pas du tout, vous voyez bien le déploiement technique chez Dürer... Mais pour moi, Lascaux est beaucoup plus beau, parce que justement, il y a une espèce de condensation du trait et de rapidité de l'idée qui est saisie, alors que l'autre, il est ampoulé et compliqué. C'est exactement ça avec la philosophie. Je ne peux pas dire que Lascaux soit inférieur à Dürer, c'est pas possible. Pour moi, c'est même le contraire. Donc
on ne peut pas dire que l'homme antique était plus perdu dans son univers.
Non,
que nous,
moi, je ne pense pas. Je pense qu'il avait un autre mode de connaissance.
En tout cas, il se posait ces questions-là. Comment organiser le chaos, quel qu'il soit? Comment l'organiser? Comment en faire du cosmos pour que je puisse l'habiter?
Comment en faire du cosmos?
C'est
le propre de la philosophie. Cosmos, c'est vraiment... C'est cosmétique. C'est l'idée de beauté. Comment organiser pour ne pas avoir l'impression d'être... jeté dans un univers dans lequel on a tout le temps peur.
On veut comprendre ce qu'on subit.
Ouais, on veut comprendre. On se pose des questions, on veut comprendre. Ça, je dirais que c'est le propre de l'homme. Et pour moi, je n'ai pas de réponse, c'était un mystère. Pourquoi est-ce que l'humain veut comprendre et expliquer les choses?
Je vois l'enfance dont vous parliez à l'instant.
C'est ça. Parce que si on vit avec des animaux, ce qui est mon cas... Il se pose quand même assez peu de questions, sauf les animaux très proches qui commencent, on voit un peu à réfléchir à force d'être avec les humains. Mais sinon, ils ont une espèce d'instinct qui leur fait habiter leur propre monde. Moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est que les animaux, même les chats avec lesquels je vis, ils ont, à un moment donné, ils savent qu'ils vont mourir, ils organisent leur fin de vie. J'ai eu des chats qui venaient vraiment me saluer, me dire au revoir, et puis ils disparaissaient. Ils allaient dans les bois mourir. Tout ça est dans un calme, et il n'y a pas de métaphysique organisée. Ils savent. Moi, je pense que même un animal sait des choses. Comment tous ces oiseaux se déplacent dans le ciel, savent où ils doivent aller, à quel moment, etc. Il y a une autre forme d'intelligence que l'homme du mythe avait, à mon avis. Mais il y a le mystère des questions. Pourquoi vous n'avez jamais vu un oiseau se poser la question en disant « Mais pourquoi j'émigre en hiver? J'en ai assez, je m'installe ici. » Et pourquoi les animaux habitent leur univers, ne se posent pas de questions. Pourquoi nous?
Et ce mystère du questionnement, on le retrouve aussi dans la Genèse, l'arbre de la connaissance.
Eh oui, mais c'est celui du bien et du mal, celui auquel on ne veut pas qu'on touche, justement.
Et c'est la connaissance, c'est-à-dire le savoir, quelque part, la connaissance. Tel que Kierkegaard disait que c'était le savoir, c'était la connaissance, celle d'Aristote, qui était peut-être le vrai péché originel,
C'est celui qui nous jette dans cette multiplicité d'opinions et de théories qui secoue le monde actuellement. Je veux dire que de nos jours, ça devient vraiment... grave, parce que avec tous les outils informatiques, Internet, etc., on est jeté dans un monde où le mensonge prend parfois le pas sur le vrai. Donc il ne suffit pas de jeter des théories, mais avec tous les complotismes et toutes les fausses informations dont on est inondé. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, si on ne fait pas l'effort de penser un peu sérieusement, on ne saura plus où est le vrai ou le faux. Et là, l'humanité, elle est perdue, hein, parce que on est noyé dans des théories qui s'éclatent dans tous les sens, qui se contredisent et se détruisent. Ça ne peut finir que par des guerres. Des guerres d'idées, des guerres de religion, des guerres de ce que vous voulez.
Pour Mircea Eliade, l'historien des religions, le sacré va permettre de donner une orientation au monde et de transformer le chaos en cosmos. C'est exactement ce qu'on vient de dire avec la philosophie. Ce sera donc le rôle de la religion, si primitive soit-elle, à ses débuts. mais c'est aussi le rôle de la philosophie. Alors, philosophie et religion, finalement, marchent ensemble vers un but commun.
Moi, je crois. Je crois sincèrement que ce qu'il faut faire, il faut qu'elle dialogue. C'est l'opinion de Benoît XVI, d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé pour que la raison et la foi soient vraiment mises en vis-à-vis et dialoguent sans arrêt. La foi doit ramener vers l'unité de départ et la raison doit amener une maîtrise du monde paisible. Mais si vous laissez seulement la raison éclater dans toutes les directions, vous allez vers le chaos. Au lieu d'aller vers, justement, le cosmos. Qu'est-ce qui fait que le chaos devient beau? C'est qu'il y a un centre, une unité.
Donc, tout ce dont nous allons parler avec ces débuts de la philosophie sera forcément lié au religieux aussi, à la transcendance.
En tout cas, c'est notre devoir ici, sur cette radio chrétienne, à mon avis.
Mais ce serait un anachronisme de dire que des philosophes tels que Thalès ou Platon...
sortent du religieux. Absolument. Voilà, non, Dieu fait partie de leur monde. Avant la Révolution française de 1789, on n'a jamais eu l'idée d'enlever Dieu de la vie rationnelle. C'est très récent que Dieu a disparu de notre discours et de notre pensée.
Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la Genèse, vous avez déjà prononcé le mot mythe. Le mythe, c'est la première façon justement d'essayer de comprendre le chaos. Mais pour nous, hommes du XXIe siècle, il y a aussi une impossibilité quelque part à comprendre le mythe à la manière de l'homme de l'Antiquité.
Ah oui, on ne peut pas...
Il y a un hiatus qu'on ne peut pas franchir.
Et en même temps, pour moi, le mythe essaye d'expliquer l'invisible. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore des zones d'invisible. Comment explique-t-on ce qu'on ne connaît pas? Ça existe encore aujourd'hui? C'est pas parce que la science a fait des progrès extraordinaires qu'on peut aller sur Mars, etc. Il y a toujours un monde inconnu derrière, ne fût-ce que la matière noire, l'énergie noire. Il y a toujours. Et quand on pense que l'énergie noire, elle fait 90% de notre inconnu, on a encore de quoi justement projeter. Alors, évidemment, on peut se contenter de dire on verra bien quand la science avance, mais il y a aussi des explications sur l'invisible. À mon avis, c'est du mythe. Ceux qui croient aux soucoupes volantes, chacun projette dans l'inconnu sa petite histoire qui va le rassurer et lui expliquer les choses qu'il ne voit pas. Mais est-ce qu'on ne fait pas la même chose même dans la foi chrétienne? Qu'est-ce que les anges, on ne les a jamais vus, hein, mais...
Cependant, je me permets de citer Lucien Gerfagnon. Je cite, « Pour les gens qui s'y meuvent, le mythe est bien ce qu'il y a de plus vrai. » Parce qu'il exprime ce qu'il y a de plus actuel, ou pour parler comme aujourd'hui, de plus réel. C'est à nos yeux que ce réel, cette vérité sont devenues des fictions. Il y a quand même une différence là.
Mais parce qu'on n'explique pas l'invisible, on ne l'explique pas n'importe comment, on l'explique en fonction du concret dans lequel on est. Il y a quand même toujours, à la base du mythe, une expérience du quotidien. L'animal, si je peux dire humain, il est là, il est dans son monde, dans son univers, concrètement sa sensorialité l'informe, il est informé par des choses bien réelles et il va bien sûr projeter sur l'invisible ce qu'il connaît et il va en faire une espèce d'anthropomorphisme ou de ce que... Il n'y a pas une abstraction qui vient dans le mythe, ça part de l'expérience quotidienne.
Alors, nous allons essayer, au cours de ces émissions, de faire le moins possible d'anachronisme.
C'est quasi impossible.
C'est quasi impossible. Hein, bon. Et pour prendre...
On va aussi projeter notre truc et nos questions.
Aujourd'hui, le mythe de Narcisse, on va y voir quelque chose de l'ordre de la psychanalyse. On va même parler d'une espèce complexe ou de névrose.
On a toutes sortes d'explications sur le mythe de Narcisse qui n'étaient pas dans le mythe de Narcisse.
Qui ne sont absolument pas dans le mythe de Narcisse.
C'est ça notre droit sur la philosophie, quand on relit Platon, on les met à notre sauce, on projette le droit, justement, de s'approprier, finalement, la réflexion des anciens, et l'imagination, et le bon sens, parce que le mythe de Narcisse, il vient de l'expérimentation de quelque chose, ce reflet impossible à atteindre. Bon, On a le droit de se réapproprier les choses, à mon avis.
Mais ça peut être aussi de retrouver les sources de, même si elles sont imparfaites, évidemment, de la compréhension de ces mythes, peut nous éclairer, parce que là, je repense à ce deuxième exemple qui est flagrant, le fameux « connais-toi toi-même », qui était la base de la philosophie. Aujourd'hui, on le prend comme une introspection. Voilà. Alors que c'était... Prends la mesure de
la mesure de toi, de quoi tu es capable.
Toi et Libris était le plus grand péché
absolument,
des Grecs.
Absolument. Mais est-ce que c'est pas le plus grand péché en général?
Oui, mais en tout cas aujourd'hui, même si c'est un péché, on le met sous le tapis parce qu'au contraire, on veut toujours plus, toujours plus.
Oui,
toujours
mais plus. Est-ce que c'est pas le
bon? Et c'est pour ça que oui, ça peut être très intéressant.
La réflexion, elle est là face à ce problème de la démesure. On l'a vu déjà quand on bâtissait les cathédrales. On voulait faire des cathédrales toujours plus grandes, toujours plus grandes, toujours plus grandes. Ça s'est arrêté jusqu'à elles étaient tellement grandes qu'elles s'écroulaient. On n'arrivait pas à fournir. Est-ce que c'est pas une leçon à tirer sur justement la démesure? Il faut que. Mais alors le problème de la démesure et de la mesure, c'est qu'elle change de place au fur et à mesure du temps. Rien n'est pareil. Certains sont à l'aise dans des grandes réalisations et d'autres vont être à l'aise dans des toutes petites choses. La mesure, c'est la grande question de la philosophie, à mon avis. Est-ce que la philosophie peut être autre chose qu'une expérience personnelle de quelqu'un dans un endroit donné à un moment donné? Est-ce qu'il faut vraiment essayer de communiquer à d'autres ce qu'on a trouvé qui était vrai dans un contexte? La juste mesure de sa place à un moment donné, est-ce qu'elle est valable pour tout le monde, à toutes les époques? Ça me paraît assez absurde. C'est l'idée de vouloir absolument expliquer aux autres quelque chose qu'on a trouvé. Jusqu'où ça peut aller? Dans le cadre d'une famille, ça peut être utile. On vit dans le même contexte, même un village, un clan. Enfin voilà, tout est à adapter la communication de sa vérité aux autres. Pourquoi faut-il, à un moment donné, que ça devienne un système qu'il faut imposer aux autres? C'est compliqué quand même, ça. Est-ce que c'est pas une idée un peu folle? Est-ce que la philosophie, c'est pas finalement une histoire interne d'adaptation?
Une histoire interne d'adaptation, mais aussi une recherche infinie, finalement, une quête infinie.
Oui, oui. C'est le problème aussi pour la foi. Si quelqu'un a trouvé un système, disons, pour trouver Dieu, est-ce qu'il est légitime de l'imposer à tous les croyants pour prendre compte? Est-ce que l'épousaille mystique que quelqu'un éprouve un jour est reproductible? C'est pas sûr. Hein.
Chère Catherine Mann, eh bien, c'est ainsi que va s'achever notre première émission. Bon. Un grand merci et je vous donne rendez-vous le mois prochain. C'était Regards sur la philosophie avec Catherine Mann et Simon Martin. Pour nous accompagner aujourd'hui, quelques extraits de Imen o Iminae de Pietro Pirelli. Thank you.